Chapitre 12. Les châteaux en Espagne. Sous le majestueux berceau que formaient les grands chênes le long de l'avenue et que le soleil, sur son déclin, coupait de fortes ombres et de brillants reflets, marchait à pas comptés une femme, ou plutôt un être sans nom, qui paraissait plongé dans une méditation farouche. C'était une de ces figures égarées et abruties par le malheur, qui n'ont pas plus d'âge que de sexe. Cependant, ses traits réguliers avaient une certaine noblesse qui n'était pas complètement effacée malgré les affreux ravages du chagrin et de la maladie, et ses longs cheveux noirs en désordre, s'échappant de dessous son bonnet blanc, surmonté d'un chapeau d'homme d'un tissu de paille brisé et déchiré en mille endroits, donnait quelque chose de sinistre à la physionomie étroite et basanée qu'ils ombrageaient en grande partie. On ne voyait de cette face jaune comme du safran et dévastée par la fièvre que deux grands yeux noirs d'une fixité effrayante dont on rencontrait rarement le regard préoccupé, un nez très droit et d'une forme assez belle, quoique très prononcée, et une bouche livide à demi entrouverte. Son habillement d'une malpropreté repoussante appartenait à la classe bourgeoise. Une mauvaise robe d'étoffe jaune dessinait un corps informe où les épaules hautes et constamment voûtées avaient acquis en largeur un développement disproportionné avec le reste du corps qui semblait étrique et sur lequel flottait la robe détachée et traînante d'un côté. Ses jambes maigres et noires étaient nues et des savates immondes défendaient mal ses pieds contre les cailloux et les épines auxquels, du reste, il semblait insensible. Elle marchait gravement, la tête penchée en avant, le regard attaché sur la terre et les mains occupées à rouler et à presser un mouchoir taché de sang. Elle venait droit sur Madame de Blanchemont, qui, dissimulant son effroi pour ne pas le communiquer à Édouard, attendait avec angoisse qu'elle prit à gauche ou à droite pour passer près d'elle. Mais le spectre, car vraiment cette créature ressemblait à une apparition sinistre, marchait toujours, sans paraître prendre garde à personne, et sa physionomie qui n'exprimait pas l'idiotisme, mais un désespoir sombre, passé à l'état de contemplation abstraite, ne semblait recevoir aucune impression des objets extérieurs. Cependant, lorsqu'elle arriva jusqu'à l'ombre que Marcel projetait à ses pieds, elle s'arrêta, comme si elle eût rencontré un obstacle infranchissable, et tourna brusquement le dos pour reprendre sa marche incessante et monotone. « C'est la pauvre Bricoline, » dit Rose sans baisser la voix, quoiqu'elle fût à portée d'être entendue. C'est ma sœur aînée qui est dérangée, c'est-à-dire folle en termes du pays. Elle a 30 ans, quoiqu'elle ait l'air d'une vieille femme, il y en a 12 qu'elle ne nous a pas dit un mot, ni paru entendre notre voix. Nous ne savons pas si elle était sourde ou pas. Elle n'est pas muette, car lorsqu'elle se croit seule, elle parle quelquefois, mais cela n'a aucun sens. Elle veut toujours être seule. Elle n'est pas méchante quand on ne la contrarie pas. Non, ne n'ayez pas peur. Si vous avez l'air de ne pas la voir, elle ne vous regardera seulement pas. Il n'y a que quand nous voulons la rapproprier un peu, qu'elle se mette en colère et se débat en criant comme si nous lui faisions du mal. « Maman, » dit Édouard, qui essayait de cacher son épouvante, « ramène-moi à la maison, j'ai faim. » « Mais comment aurais-tu faim? Tu sors de table, » dit Marcel, qui n'avait pas plus envie que son fils de contempler plus longtemps ce triste spectacle. « Tu te trompes assurément. Viens dans une autre allée, peut-être qu'il fait encore trop de soleil dans celle-ci et que la chaleur te fatigue. »« Oui, oui, rentrons dans le taillis, » dit Rose. « Ceci n'est pas gai à voir. Il n'y a pas de risque qu'elle nous suive. D'ailleurs, quand elle est dans une allée, elle ne le quitte pas souvent. Vous pouvez voir que dans celle-ci, l'herbe est brûlée au milieu tant elle y a passé et repassé, toujours au même endroit. Pauvre sœur, quel dommage. Elle était si belle et si bonne. Je me souviens du temps où elle me portait dans ses bras et s'occupait de moi comme vous vous occupez de ce bel enfant-là. Mais depuis son malheur, elle ne me connaît plus et ne se souvient pas seulement que j'existe. Oh, ma chère mademoiselle Rose, quel affreux malheur en effet! Et quelle en est la cause? Est-ce un chagrin ou une maladie? Le sait-on? Hélas, oui, on le sait bien, mais on n'en parle pas. Moi, je vous demande pardon si l'intérêt que je vous porte m'a entraîné à vous faire une question indiscrète. Oh, pour vous, madame, c'est bien différent. Il me semble que vous êtes si bonne qu'on n'est jamais humilié devant vous. Je vous dirai donc entre nous que ma pauvre sœur est devenue folle par suite d'une amour contrariée. Oh, elle aimait un jeune homme très bien et très honnête, mais qui n'avait rien, et nos parents n'ont pas voulu consentir au mariage. Alors le jeune homme s'est engagé et a été se faire tuer à Alger. Et la pauvre bricoline, qui avait toujours été triste et silencieuse depuis son départ, et à qui on supposait seulement de l'humeur et un chagrin qui passerait avec le temps, a pris sa mort d'une manière un peu trop cruelle. Ma mère, croyant qu'en perdant toute espérance, elle en prendrait enfin son parti, lui jeta cette mauvaise nouvelle à la tête, avec des termes assez durs et dans un moment où une émotion pareille pouvait être mortelle. Ma sœur ne parut pas entendre et ne répondit rien. On était en train de souper, je m'en souviens, comme d'hier, quoique je fusse bien jeune. Elle laissa tomber sa fourchette et regarda ma mère pendant plus d'un quart d'heure, sans dire un mot, sans baisser les yeux, et d'un air si singulier que ma mère eut peur et s'écria « Mais ne dirait-on pas qu'elle veut me dévorer ?»« Vous en ferez tant, » dit ma grand-mère, qui est une femme excellente et qui aurait voulu marier Bricoline avec son amoureux. « Vous lui donnerez tant de soucis que vous la rendrez folle !» Ma grand-mère n'avait que trop bien jugé. Ma sœur était folle. Et depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais mangé avec nous. Elle ne toucha rien de ce qu'on lui présente, et elle vit toujours seule, nous fuyant tous, et se nourrissant de vieux restes qu'elle va ramasser elle-même dans le fond du bahut quand il n'y a personne dans la cuisine. Quelquefois, elle se jette sur une volaille, la tue, la déchire avec ses doigts et la dévore toute sanglante. C'est ce qu'elle vient de faire, j'en suis sûr, car elle a du sang aux mains et sur son mouchoir. D'autres fois, elle arrache des légumes dans le jardin, les mange crus. Enfin, elle vit comme une sauvage et fait peur à tout le monde. Voilà les suites d'une amour contrariée. Et mes pauvres parents ne sont que trop punis d'avoir mal jugé le cœur de leur fille. Cependant, il ne parle jamais de ce qu'il ferait pour elle si c'était à recommencer. Marcel crut que Rose faisait allusion à elle-même, et désirant savoir à quel point elle partageait l'amour du grand Louis, elle encouragea sa confiance par un ton de douceur affectueuse. Elles étaient arrivées à la lisière de la Garenne opposée à celle où se promenait la folle. Marcel se sentait plus à l'aise et le petit Édouard avait oublié déjà sa frayeur. Il avait repris sa course folâtre à portée de l'œil de sa mère. « Votre mère me paraît un peu rigide, en effet, » dit madame de Blanchemont à sa compagne. « Mais monsieur Bricola a l'air d'avoir pour vous plus d'indulgence. »« Papa fait moins de bruit que maman, » dit Rose en secouant la tête. Il est plus gai, plus caressant. Il fait plus de cadeaux, il a plus d'attentions aimables. Et enfin, il aime bien ses enfants. C'est un bon père. Mais sous le rapport de la fortune et de ce qu'il appelle la convenance, sa volonté est peut-être plus inébranlable encore que celle de ma mère. Je lui ai entendu dire 100 fois qu'il valait mieux être mort que misérable et qu'il me tuerait plutôt que de consentir à vous marier à votre gré, dit Marcel, voyant que Rose ne trouvait pas d'expression pour rendre sa pensée. « Oh, il dit pas comme cela, » reprit Rose d'un air un peu prude. « Je n'ai jamais pensé au mariage et je ne sais pas encore si mon gré ne serait pas le sien. Mais enfin, il a beaucoup d'ambition pour moi et se tourmente déjà de la crainte de ne pas trouver un gendre digne de lui. Ce qui fait que je ne serai pas marié le sitôt et j'en suis bien aise, car je ne désire pas quitter ma famille. » Malgré les petites contrariétés que j'y éprouve de la part de maman. Marcel crut voir chez Rose un peu de dissimulation, et ne voulant pas brusquer sa confiance, elle fit l'observation que Rose avait sans doute beaucoup d'ambition pour elle-même. « Ou pas du tout, » répondit Rose avec abandon. « Je me trouve beaucoup plus riche que je n'ai besoin et souci de l'être. » Mon père a beau dire que nous sommes 5 enfants, car j'ai 2 sœurs et 1 frère établi, et que par conséquent la part de chacun ne sera pas déjà si grosse, cela m'est bien égal. J'ai des goûts simples, et d'ailleurs je vois bien, par ce qui se passe chez nous, que plus on est riche et plus on est pauvre. Comment cela ? Ben, chez nous autres cultivateurs, du moins c'est la vérité. Vous, les nobles, vous vous faites en général honneur de votre fortune. On vous accuse même chez nous de la prodiguer. Et en voyant la ruine de tant d'anciennes familles, on se dit qu'on sera plus sage et on vise avec soin, enfin, comment dirais-je, avec passion, à établir sa race dans la richesse. On voudrait toujours doubler et tripler ce qu'on possède. Voilà du moins ce que mon père, ma mère, mes sœurs et leurs maris, mes tantes et mes cousines m'ont répété sur tous les tons depuis que j'existe. Aussi, pour ne pas s'arrêter dans le travail de s'enrichir, on s'impose toutes sortes de privations. On fait de la dépense devant les autres de temps en temps, et puis dans le secret du ménage, on tondrait, comme on dit, sur un œuf. On craint de gâter ses meubles, ses robes, et de trop donner à ses aises. Du moins, c'est le système de ma mère, et c'est un peu dur d'épargner toute sa vie et de s'interdire toute jouissance quand on est à même de se les donner. Et quand il faut économiser sur le bien-être, le salaire et l'appétit des autres, quand il faut être dur aux gens qui travaillent pour nous, cela devient tout à fait triste. Quant à moi, si j'étais maîtresse de me gouverner comme je l'entends, je voudrais ne rien refuser aux autres ni à moi-même. Je mangerais mon revenu et peut-être que le fonds ne s'en porterait pas plus mal. Car enfin on m'aimerait, on travaillerait pour moi, avec zèle et avec fidélité. N'est-ce pas ce que ce grand Louis disait à dîner ? Il avait raison. Ma chère Rose, il avait raison en théorie. En théorie ? C'est-à-dire en appliquant ces idées généreuses à une société qui n'existe pas encore, mais qui existera un jour, certainement. Quant à la pratique actuelle, c'est-à-dire quant à ce qui peut se réaliser aujourd'hui, vous vous feriez illusion si vous pensiez qu'il suffirait à quelques-uns d'être bons au milieu de tous les autres qui ne le sont pas pour être compris, aimé et récompensé de cette vie. Ce que vous dites là m'étonne. Je croyais que vous penseriez comme moi. Vous croyez donc qu'on a raison d'écraser ceux qui travaillent à notre profit ? Non, je ne pense pas comme vous, Rose, et pourtant, je suis bien loin de penser comme vous le supposez. Je voudrais qu'on ne fît travailler personne pour soi, mais qu'en travaillant chacun pour tous, on travaillât pour Dieu et pour soi-même par contre-coup. Mais comment cela pourrait-il se faire ? Ce serait trop long à vous expliquer, mon enfant, et je craindrais de le faire mal. En attendant que l'avenir que je conçois se réalise, je regarde comme un très grand malheur d'être riche, et pour ma part, je suis fort soulagé de ne l'être plus. C'est singulier, dit Rose. Celui qui est riche peut cependant faire du bien à ceux qui ne le sont pas, et c'est là le plus grand bonheur. Une seule personne bien intentionnée peut faire si peu de bien, même en donnant tout ce qu'elle possède, et alors elle est sitôt réduite à l'impuissance. Mais si chacun faisait de même, oui, si chacun, voilà ce qu'il faudrait. Mais il est impossible maintenant d'amener tous les riches à un pareil sacrifice. Vous-même, Rose, vous ne seriez pas disposée à le faire entièrement. Vous voudriez bien, avec votre revenu, soulager le plus de souffrances possible, c'est-à-dire sauver quelques familles de la misère. Mais ce serait toujours à la condition de conserver votre fonds. Et moi qui vous prêche, je m'attache aux derniers débris de ma fortune pour sauver ce qu'on appelle l'honneur de mon fils, en lui conservant de quoi faire face aux dettes de son père, sans tomber lui-même dans un dénuement absolu, d'où résulterait le manque d'éducation, un travail excessif, et probablement la mort d'un être délicat, issu d'une race d'oisifs, héritier d'une organisation chétive, et sous ce rapport très inférieur à celle du paysan. Vous voyez donc qu'avec nos bonnes intentions, nous autres qui ne savons pas comment la société pourrait apporter remède à de telles alternatives, nous ne pouvons rien, sinon préférer pour nous-mêmes la médiocrité à la richesse et le travail à l'oisiveté. C'est un pas vers la vertu, mais quel pauvre mérite nous avons là, et combien peu il apporte remède aux misères sans nombre qui frappent nos yeux et contristent notre cœur. Mais le remède, dit Rose stupéfaite, il n'y a donc pas de remède? Il faudrait qu'un roi trouvât tout cela dans sa tête, puisqu'un roi peut tout. Mais un roi ne peut rien, ou presque rien, répondit Marcel en souriant de la naïveté de Rose. Il faudrait qu'un peuple trouvât cela dans son cœur. Tout cela me fait l'effet d'un rêve, dit la bonne Rose. C'est la première fois que j'entends parler de ces choses-là. Je pense bien, quelquefois toute seule, mais chez nous, personne ne dit que le monde ne va pas bien. On dit qu'il faut s'occuper de soi, parce que notre bonheur est la seule chose dont les autres ne s'occuperont pas, et que tout le monde est le grand ennemi de chacun. Cela fait peur, n'est-ce pas ? Il y a là une étrange contradiction. Le monde va bien mal, puisqu'il est rempli que d'êtres qui se détestent et se craignent entre eux. Mais votre idée pour sortir de là, car enfin on ne s'aperçoit pas du mal sans avoir l'idée du mieux. Bon, on peut avoir cette idée claire quand tout le monde l'a conçue qu'avec vous et vous aide à la produire. Mais quand on est quelques-uns seulement contre tous, qui vous raillent d'y songer et qui vous font un crime d'en parler, on n'a qu'une vue trouble et incertaine. C'est ce qui arrive, je ne dis pas, aux plus grands esprits de ce temps-ci. Je n'en sais rien, je ne suis qu'une femme ignorante. Mais au cœur les mieux intentionnés. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Oui, au jour d'aujourd'hui, comme dit mon père, dit Rose en souriant. Puis elle ajouta d'un air triste. Mais que ferais-je donc, moi ? Que ferais-je pour être bonne étant riche ? Vous conserverez dans votre cœur comme un trésor, ma chère Rose, la douleur de voir souffrir, l'amour du prochain que l'Évangile nous enseigne, et le désir ardent de vous sacrifier au salut d'autrui, le jour où ce sacrifice individuel deviendrait utile à tous. Ce jour-là viendra donc, vous n'en doutez pas. Vous en êtes sûr, comme de la justice et de la bonté de Dieu. C'est vrai, au fait, Dieu ne peut pas laisser durer le mal éternellement. C'est égal, madame la baronne, vous m'avez rempli le cerveau d'éblouissement. J'en ai mal à la tête. Mais il me semble pourtant que je comprends maintenant pourquoi vous perdez si tranquillement votre fortune. Et je me figure par instant que moi-même je deviendrais médiocre avec plaisir. Et s'il fallait devenir pauvre, souffrir, travailler, oh l'homme, si cela ne servait à rien, ce serait affreux. Et si l'on commençait à voir pourtant que cela sert à quelque chose? S'il fallait passer par une crise de grande détresse, par une sorte de martyr pour arriver à sauver l'humanité. Eh bien, dit Rose, qui regardait Marcel avec étonnement, on le supporterait avec patience. Mais on s'y jetterait avec enthousiasme, s'écria Marcel avec un accent et un regard qui firent tressaillir Rose et qui l'entraînèrent comme un choc électrique. Quoique sa très grande surprise. Édouard commençait à ralentir ses jeux et la lune montait à l'horizon. Marcel jugea qu'il était temps de mener coucher l'enfant et Rose la suivit en silence, encore tout étourdie de la conversation qu'elle venait d'avoir ensemble. Mais, retombant dans la réalité de sa vie en approchant de la ferme, et en écoutant au loin la voix retentissante de sa mère, elle se dit en regardant marcher la jeune dame devant elle, est-ce qu'elle ne serait pas aussi dérangée? Chapitre 13. Rose. Malgré cette appréhension, Rose sentait un attrait invincible pour Marcel. Elle l'aida à coucher son fils, l'entoura de mille prévenances charmantes, et en la quittant, elle prit sa main pour la baiser. Marcel, qui l'aimait déjà comme un enfant bien doué de la nature, l'en empêcha en l'embrassant sur les deux joues. Rose, encouragée, ravie, hésitait à partir. Je voudrais vous demander une chose, lui dit-elle enfin. Est-ce que le grand Louis a vraiment assez d'esprit pour vous comprendre? Comme certainement, Rose. Mais qu'est-ce que cela vous fait? Répondit Marcel avec un peu de malice. Ben, c'est que cela m'a paru bien singulier de voir aujourd'hui que de nous tous, c'était notre meilleur meunier qui avait le plus d'idées. Il n'a pourtant pas reçu une bien belle instruction, ce pauvre Louis. Mais il a tant de cœur et d'intelligence, dit Marcel. Oh, du cœur, oui. Oh, je le connais beaucoup, moi, ce garçon-là. J'ai été élevé avec lui. C'est sa sœur aînée qui m'a nourri, et j'ai passé mes premières années au moulin Langibaud. Est-ce qu'il ne vous l'a pas dit? Non, il ne m'a pas parlé de vous, mais j'ai cru voir qu'il vous était fort dévoué. Il a toujours été très bon pour moi, dit Rose en rougissant. La preuve qu'il est excellent, c'est qu'il a toujours aimé les enfants. Il n'avait que 7 ou 8 ans quand j'étais en nourrice chez sa sœur, et ma grand-mère dit qu'il me soignait et m'amusait comme s'il eût été d'âge à être mon père. Il paraît aussi que j'avais tant d'amitié pour lui que je ne voulais pas le quitter, et que ma mère, qui ne le haïssait pas dans ce temps comme aujourd'hui, le fit venir à la maison quand je fus sevré pour me tenir compagnie. Il y resta 2 ou 3 ans au lieu de 2 ou 3 mois dont était convenu d'abord. Il était si actif et si serviable qu'on le trouvait fort utile chez nous. Sa mère avait alors des embarras, et ma grand-mère, qui est son amie, trouvait fort bien qu'on la débarrassât d'un de ses enfants. Je me rappelle donc bien le temps où Louis. Ma pauvre sœur et moi étions toujours à courir et à jouer ensemble dans le pré, dans la garenne, dans les greniers du château. Mais quand il fut en âge d'être utile à sa mère en travaillant la farine, elle le rappela au moulin. Et nous eûmes tant de regrets de nous séparer, et je m'ennuyais tellement sans lui, sa mère et sa sœur, ma nourrice. M'étais si attaché qu'on me conduisait à Angibault tous les samedis soirs pour me ramener ici tous les lundis matins. Cela dura jusqu'à l'âge où l'on me mit en pension à la ville Et quand j'en sortis, il n'était plus question de camaraderie entre un garçon comme le meunier et une jeune fille qu'on traitait de demoiselle. Cependant, nous nous sommes toujours vus souvent depuis que mon père, malgré la distance, l'a pris pour son meunier et qu'il vient ici 3 ou 4 fois par semaine. De mon côté, j'ai toujours eu un grand plaisir à revoir Angibaud et la meunière qui est si bonne et que j'aime tant. Eh bien, madame, concevez-vous que depuis quelque temps, ma mère s'avise de trouver cela mauvais et qu'elle m'empêche d'aller m'y promener. Elle a pris le pauvre grand Louis en horreur. Elle fait son possible pour le mortifier. Et elle m'a défendu de danser avec lui dans les assemblées sous prétexte qu'il est trop au-dessous de moi. Cependant, nous autres demoiselles de campagne, comme on nous appelle, nous dansons toujours avec les paysans qui nous invitent. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire que le meunier d'Angibaud soit un paysan. Il a pour 20 000 francs de bien, et il a été mieux élevé que bien d'autres. À vous dire vrai, mon cousin Honoré Bricolin n'écrit pas l'orthographe aussi bien que lui. Quoi qu'on ait dépensé plus d'argent pour l'instruire, je ne vois pas pourquoi on veut que je sois si fier de ma famille. Je n'y comprends rien non plus, dit Marcel, qui voyait bien qu'un peu de finesse était nécessaire avec Mademoiselle Rose, et qu'elle ne se confesserait pas avec l'ardente expansion du grand Louis. Est-ce que vous ne voyez rien dans les manières du bon meunier qui ait pu motiver le mécontentement de votre mère? Oh non, rien du tout. Il est 100 fois plus honnête et plus convenable que tous nos bourgeois de campagne, qui s'enivrent presque tous et sont parfois très grossiers. Jamais il n'a dit à mes oreilles un mot qui m'est porté à baisser les yeux. Mais votre mère ne se serait-elle pas forgée la singulière idée qu'il peut être amoureux de vous? Rose se trouva, hésita, et finit par avouer que sa mère pouvait bien s'être persuadée de cela. Et si votre mère avait deviné juste, n'aurait-elle pas raison de vous mettre en garde contre lui? Mais c'est selon. Si cela était, s'il m'en parlait, mais il ne m'a jamais dit un mot qui me fût de pure amitié. Et s'il était très épris de vous, sans jamais oser vous le dire, alors où serait le mal? Dit Rose avec un peu de coquetterie. Vous seriez très coupable d'entretenir sa passion sans vouloir l'encourager sérieusement, répondit Marcel d'un ton assez sévère. Ce serait vous faire un jeu de la souffrance d'un ami, et ce n'est pas dans votre famille, Rose, qu'on doit traiter légèrement les amours contrariés. Oh, dit Rose d'un air mutin, les hommes ne deviennent pas fous pour ces choses-là. Cependant, ajouta-t-elle naïvement et en penchant la tête, il faut avouer qu'il est quelquefois bien triste, ce pauvre Louis, et qu'il parle comme un homme qui est au désespoir, sans que je puisse deviner pourquoi. Cela me fait beaucoup de peine. Pas assez pourtant pour que vous daigniez le comprendre. Mais quand il m'aimerait, que pourrais-je faire pour le consoler? Sans doute, oui, il faudrait l'aimer ou l'éviter. Je ne peux ni l'un ni l'autre. L'aimer, c'est quasi impossible. Et l'éviter, j'ai trop d'amitié pour lui pour me résoudre à lui faire cette peine-là. Si vous saviez quels yeux il fait quand j'ai l'air de ne pas comprendre et de ne pas prendre garde à lui, il en devient tout pâle, et cela me fait mal. Mais pourquoi, dites-vous donc, qu'il vous serait impossible de l'aimer? Dame, peut-on aimer quelqu'un qu'on ne peut pas épouser? Mais on peut toujours épouser quelqu'un qu'on aime. Oh, pas toujours. Voyez ma pauvre sœur. Son exemple me fait trop de peur pour que je veuille risquer de le suivre. Ne risquez rien, ma chère Rose, dit Marcel avec un peu d'amertume. Quand on dispose de son amour et de sa volonté avec tant d'aisance, on n'aime pas et on ne court aucun danger. Ne dites pas cela, répondit Rose avec vivacité. Je suis aussi capable qu'une autre d'aimer et de risquer d'être malheureuse. Mais me conseilleriez-vous d'avoir ce courage-là? Oh, Dieu m'en préserve. Non, je voudrais vous aider seulement à constater l'état de votre cœur, afin que vous ne fassiez pas le malheur de Louis par votre imprudence. Oh, ce pauvre grand Louis! Mais voyons, madame, que puis-je donc faire? Je suppose que mon père, après bien des colères et des menaces, consent à me donner à lui, et que ma mère est effrayée de l'exemple de ma sœur, aime mieux sacrifier ses répugnances que de me voir tomber malade. Tout cela n'est guère probable. Mais enfin, pour en arriver là, voyez donc que de disputes, que de scènes, que d'embarras. Vous avez peur, vous n'aimez pas, vous dis-je. Vous pouvez avoir raison, c'est pourquoi il faut éloigner le grand Louis. Ce conseil sur lequel Marcel revenait toujours ne paraissait nullement du goût de Rose. L'amour du meunier flattait extrêmement son amour-propre, surtout depuis que Madame de Blanchemont l'avait tant relevé à ses yeux, et peut-être aussi à cause de la rareté du fait. Les paysans sont peu susceptibles de passion, et dans le monde bourgeois où Rose vivait, la passion devenait de plus en plus inouïe et inconnue au milieu des préoccupations de l'intérêt. Rose avait lu quelques romans. Elle était fière d'inspirer un amour disproportionné, impossible, et dont un jour ou l'autre tout le pays parlerait peut-être avec étonnement. Enfin, le grand Louis était la coqueluche de toutes les paysannes. Il n'y avait pas assez de distance entre leur race et la bourgeoisie de fraîche date des Bricolins pour qu'il n'y eût pas quelque enivrement à l'emporter sur les plus belles filles de l'endroit. Mais ne croyez pas que je sois lâche, dit Rose, après un instant de réflexion. Je sais fort bien répondre à maman quand elle accuse injustement ce pauvre garçon. Et si une fois je m'étais mis en tête quelque chose, aidé de vous, qui avez tant d'esprit, et que mon père désire tant se rendre favorable dans ce moment-ci, je pourrais bien triompher de tout. D'abord, je vous déclare que je ne perdrai pas la tête comme ma pauvre sœur. Je suis obstiné, et on m'a toujours trop gâté pour ne pas me craindre un peu. Mais je vais vous dire ce qui me coûterait le plus. Voyons, Rose, j'écoute. Que penserait-on de moi dans le pays si je faisais des esclandres là dans ma famille? Toutes mes amies, jalouses peut-être de l'amour que j'inspirerais, et qu'elles ne trouveront jamais dans leur mariage d'argent, me jetteraient la pierre. Tous mes cousins et prétendants, furieux de la préférence donnée à un paysan sur eux, qui se croient d'un si grand prix, toutes les mères de famille, effrayées de l'exemple que je donnerais à leurs filles, enfin les paysans eux-mêmes, jaloux de voir l'un d'entre eux faire ce qu'ils appellent un gros mariage, me poursuivraient de leur blâme et de leur moquerie. Voilà une folle, dirait l'un. C'est dans le sang, et bientôt elle mangera de la viande crue comme sa sœur. Voilà une sotte, dirait l'autre, qui prend un paysan pouvant épouser un homme de sa sorte. Et voilà une méchante fille, dirait tout le monde, qui fait de la peine à des parents qui ne lui ont pourtant jamais rien refusé. Oh, l'effrontée, la dévergondée, qui fait tout ce scandale pour un manant parce qu'il y a 8 pieds et 8 pouces. Pourquoi pas pour son valet de charrue, Pourquoi pas pour l'oncle Caloche, qui va mendiant de porte en porte. Enfin, cela ne finirait pas. Je crois que ce n'est pas joli pour une jeune fille de s'exposer à tout cela pour l'amour d'un homme. Ma chère Rose, dit Marcel, vos dernières objections ne me paraissent pas si sérieuses que les premières. Et pourtant, je vois que vous auriez beaucoup plus de répugnance à braver l'opinion publique que la résistance de vos parents. Il faudra que nous examinions mûrement ensemble le pour et le contre. Et comme vous m'avez raconté votre histoire, je vous dois la mienne. Je veux vous la raconter, bien que ce soit un secret, tout le secret de ma vie, mais il est si pur qu'une demoiselle peut l'entendre. Dans quelque temps, ce n'en sera plus un pour personne, et en attendant, je suis certaine que vous le garderez fidèlement. « Oh, madame !» s'écria Rose en se jetant au cou de Marcel. « Que vous êtes bonne ! On ne m'a jamais dit de secret, et j'ai toujours eu envie d'en savoir un afin de le bien garder. Jugez si le vôtre me sera sacré. » Il m'instruira de bien des choses que j'ignore. Car il me semble qu'il doit y avoir une morale en amour, comme en toute chose, et personne ne m'en a jamais voulu parler, sous prétexte qu'il n'y a pas ou qu'il ne doit pas y avoir d'amour. Il me semble pourtant bien... Oh, mais parlez, parlez, ma chère madame Marcel. Je me figure qu'en ayant votre confiance, je vais avoir votre amitié. Pourquoi non, si je puis espérer d'être payé de retour, dit Marcel en lui rendant ses caresses. Oh mon Dieu, dit Rose dont les yeux se remplirent de larmes, ne le voyez-vous pas que je vous aime, que dès la première vue mon cœur a été vers vous et qu'il est à vous tout entier depuis seulement un jour que je vous connais. Comment cela se fait-il, je n'en sais rien. Mais je n'ai jamais vu personne qui me plût autant que vous. Je n'en ai vu que dans les livres, et vous me faites l'effet d'être à vous seule toutes les belles héroïnes des romans que j'ai lus. Et puis, ma chère enfant, votre noble cœur a besoin d'aimer. Je tâcherai de n'être pas indigne de l'occasion qui me favorise. La petite Fanchon était déjà installée dans le cabinet voisin, et déjà elle ronflait de façon à couvrir la voix des chouettes et des engoulevents qui commençaient à s'agiter dans les combles des vieilles tours. Marcel s'assit auprès de la fenêtre ouverte, d'où l'on voyait briller les étoiles sereines dans un ciel magnifiquement pur, et prenant la main de Rose dans les siennes, elle parla ainsi qu'il suit. Chapitre 14. Marcel. Mon histoire, chère Rose, ressemble en effet à un roman, mais c'est un roman si simple et si peu nouveau qu'il ressemble à tous les romans du monde. Le voici en aussi peu de mots que possible. Mon fils, à l'âge de 2 ans, était d'une santé si mauvaise que je désespérais de le sauver. Mes inquiétudes, ma tristesse, les soins continuels dont je ne voulais me remettre à personne, me fournirent une occasion toute naturelle de me retirer du monde où je n'avais qu'une courte apparition et pour lequel je n'avais aucun goût. Les médecins me conseillèrent de faire vivre mon enfant à la campagne. Mon mari avait une belle terre à 20 lieues de celle-ci, comme vous savez. Mais la vie bruyante et licencieuse qu'il y menait avec ses amis, ses chevaux, ses chiens et ses maîtresses, ne m'engageait pas à m'y retirer même aux époques où il vivait à Paris. Le désordre de cette maison, l'insolence des valets dont on souffrait le pillage, ne pouvant leur payer régulièrement leur salaire, un entourage de voisins de mauvais ton me furent si bien dépeints par mon vieux Lapierre, qui y avait passé quelque temps, que je renonçais à y tenter un établissement. Monsieur de Blanchemont, ne se souciant pas que je vinsse vivre ici, à portée de connaître ses dérèglements, me fit croire que ce lieu était affreux, que le vieux château était inhabitable, et sous ce dernier rapport, il ne faisait qu'exagérer un peu, vous en conviendrez. Il parla de m'acheter une maison de campagne aux environs de Paris. Mais où eût-il pris de l'argent pour cette acquisition lorsqu'à mon insu, il était déjà à peu près ruiné? Voyant que ses promesses n'aboutissaient à rien et que mon fils dépérissait, je me hâtais de louer à Montmorency un village près de Paris dans une situation admirable, au voisinage des bois et des collines les plus sainement exposées, une moitié de maison, la première que je pus trouver, la seule dans ce moment-là. Ces habitations sont fort recherchées par les gens de Paris qui s'y établissent, même des personnes riches, plus que modestement pour quelque temps de la belle saison. Mes parents et mes amis vinrent m'y voir assez souvent d'abord, puis de moins en moins, comme il arrive toujours quand la personne qu'on visite aime sa retraite et n'y attire ni par le luxe, ni par la coquetterie. Et vers la fin de la première saison, il se passait souvent 15 jours sans que je visse venir personne de Paris. Je ne m'étais lié avec aucune des notabilités de l'endroit. Édouard se portait mieux, j'étais calme et satisfaite. Je lisais beaucoup, je me promenais dans les bois, seul avec lui, une paysanne pour conduire son âne, un livre et un gros chien, gardien très jaloux de nos personnes. Cette vie me plaisait extrêmement. Monsieur de Blanchemont était enchanté de n'avoir pas à s'occuper de moi. Il ne venait jamais me voir. Il envoyait de temps en temps un domestique pour savoir des nouvelles de son fils et s'enquérir de mes besoins d'argent, pour qui était fort modeste, heureusement pour moi. Il n'eût pu les satisfaire. « Voyez, s'écria Rose, il nous disait ici que c'était pour vous qu'il mangeait ses revenus et les vôtres, qu'il vous fallait des chevaux, des voitures, tandis que vous alliez peut-être à pied dans les bois pour économiser le loyer d'un âne. Vous l'avez deviné, chère Rose. Lorsque je demandais quelque argent à mon mari, il me faisait de si longues et de si étranges histoires sur la pénurie de ses fermiers, sur la gelée de l'hiver, sur la grêle de l'été, qui les avait ruinés, que pour le plus entendre tous ces détails, et la plupart du temps, dupe de sa généreuse commisération, pour vous, je la pouvais et m'abstenais de réclamer la jouissance de mes revenus. La vieille maison que j'habitais était propre, mais presque pauvre, et je n'y attirais l'attention de personne. Elle se composait de 2 étages, j'occupais le premier, au rez-de-chaussée habitaient 2 jeunes gens dont l'un était malade, un petit jardin très ombragé entouré de grands murs, où Édouard jouait sous mes yeux avec sa bonne lorsque j'étais assise à ma fenêtre, était commun aux 2 locataires, Monsieur Henri Lesmort et moi. Henri avait 22 ans, son frère n'en avait que 15. Le pauvre enfant était phtisique, et son aîné le soignait avec une sollicitude admirable. Ils étaient orphelins. Henri était une véritable mère pour le pauvre agonisant. Il ne le quittait pas d'une heure. Il lui faisait la lecture, le promenait en le soutenant dans ses bras, le couchait et le rhabillait comme un enfant. Et comme ce malheureux Ernest ne dormait presque plus, Henri, pâle, exténué, creusé par les veilles, semblait presque aussi malade que lui. Une vieille femme excellente, propriétaire de notre maison et occupant une partie du rez-de-chaussée, montrait beaucoup d'obligeance et de dévouement à ces malheureux jeunes gens. Mais elle ne pouvait suffire à tout. Je dus m'empresser de la seconder. Je le fis avec zèle et sans m'épargner, comme vous l'eussiez fait à ma place, Rose. Et même dans les derniers jours de l'existence d'Ernest, je ne quittais guère son chevet. Il me témoignait une affection et une reconnaissance bien touchantes. Ne connaissant pas et ne sentant plus la gravité de son mal, il mourut sans s'en apercevoir et presque en parlant. Il venait de me dire que si je l'avais guéri, lorsque sa respiration s'arrêtait et que sa main se glaça dans les miennes. La douleur d'Henri fut profonde. Il en tomba malade et à son tour il fallut le soigner et le veiller. La vieille propriétaire, Madame Joly, était au bout de ses forces. Édouard, heureusement, était bien portant et je pouvais partager mes soins entre lui et Henri. Le devoir d'assister et de consoler ce pauvre Henri retomba sur moi seul. Et à la fin de l'automne, j'eus la joie de l'avoir rendu à la vie. Vous concevez bien, Rose, qu'une amitié profonde, inaltérable, s'était cimentée entre nous deux, au milieu de toutes ces douleurs et de tous ces dangers. Quand l'hiver et l'insistance de mes parents me forcèrent de retourner à Paris, nous nous étions fait une si douce habitude de lire, de causer et de nous promener ensemble dans le petit jardin, que notre séparation fut un véritable déchirement de cœur. Nous n'osâmes pourtant nous promettre de nous retrouver à Montmorency l'année suivante. Nous étions encore timides l'un avec l'autre, et nous aurions tremblé de donner le nom d'amour à cette affection. Henri n'avait guère songé à s'enquérir de ma condition, ni moi de la sienne. Nous faisions à peu près la même dépense dans la maison. Il m'avait demandé la permission de me voir à Paris. Mais quand je lui donnais mon adresse, chez ma belle-mère, à l'hôtel de Blanchemont, il parut surpris et effrayé. Quand je quittais Montmorency dans le carrosse armorié que mes parents avaient envoyé pour me prendre, il eut l'air consterné, et quand il sut que j'étais riche, je croyais l'être et je passais pour tel, il se regarda comme à jamais séparé de moi. Et l'hiver se passa sans que je le revisse, sans que je l'entendisse parler de lui. Lémore était pourtant lui-même réellement plus riche que moi à cette époque. Son père, mort une année auparavant, était un homme du peuple, un ouvrier, qu'un petit commerce et beaucoup d'habileté avaient mis fort à l'aise. Les enfants de cet homme avaient reçu une très bonne éducation, et la mort d'Ernest laissait à Henri un revenu de 8 ou 10 000 francs. Mais les idées de lucre, la délicatesse, l'effroyable dureté et l'égoïsme profond de ce père commerçant avaient révolté de bonheur l'âme enthousiaste et généreuse d'Henri. Dans l'hiver qui suivit la mort d'Ernest, il se hâta de céder, presque pour rien, son fonds de commerce à un homme que Lémore le père avait ruiné par les manœuvres les plus rapaces et les plus déloyales d'une impitoyable concurrence. Henri distribua à tous les ouvriers que son père avait longtemps pressurés le produit de cette vente, et se dérobant avec une sorte d'aversion à leur reconnaissance, car il m'a dit souvent que ces hommes malheureux avaient été corrompus et avilis eux-mêmes par l'exemple et les procédés de leur maître, il changea de quartier et se mit en apprentissage pour devenir ouvrier lui-même. L'année précédente, et avant que la maladie de son frère le forçât d'habiter la campagne, il avait déjà commencé à étudier la mécanique. J'appris tous ces détails par la vieille femme de Montmorency, à qui j'allais faire une ou deux visites à la fin de l'hiver, autant, je l'avoue, pour savoir des nouvelles d'Henri que pour lui témoigner l'amitié dont elle était digne à tout égard. Cette femme avait de la vénération pour les morts. Elle avait soigné le pauvre Ernest comme son propre fils. Elle ne parlait d'Henri que les mains jointes et les yeux pleins de larmes. Quand je lui demandais pourquoi il ne venait pas me voir, elle me répondit que ma richesse et ma position dans le monde ne pouvaient permettre que des rapports naturels s'établissent entre une personne comme moi et un homme qui s'était jeté volontairement dans la pauvreté. C'est à cette occasion qu'elle me raconta tout ce qu'elle savait de lui et tout ce que je viens de vous rapporter. Vous devez comprendre, chère Rose, combien je fus frappé de la conduite de ce jeune homme qui s'était montré à moi si simple, si modeste et si parfaitement ignorant de sa grandeur morale. Alors je ne pus penser à autre chose. Dans le monde comme dans ma chambre, solitaire, au théâtre comme à l'église, son souvenir et son image étaient toujours dans mon cœur et dans ma pensée. Je le comparais à tous les hommes que je voyais, et alors il me paraissait si grand. Dès la fin de mars, je retournais à Montmorency, n'espérant point y retrouver mon intéressant voisin. J'eus un instant de véritable douleur, lorsque, descendant au jardin avec une parente qui m'avait accompagné pour m'aider malgré moi à me réinstaller à la campagne, j'appris que le rez-de-chaussée était loué à une vieille dame. Mais ma compagne, ayant fait quelques pas loin de moi, la bonne dame jolie me dit à l'oreille qu'elle avait fait ce petit mensonge parce que ma parente lui paraissait curieuse et babillarde, mais que les morts étaient là et qu'ils se tenaient cachés pour ne me voir que lorsque je serais seul. Oh, je pensais m'évanouir de joie et je supportais l'obligeance et les attentions de ma pauvre cousine avec une patience dont je faillis mourir. Enfin, elle partit, et je revis les morts. Non pas seulement ce jour-là, mais tous les jours et presque à toutes les heures de la journée, depuis la fin de l'hiver jusqu'à l'extrême fin de l'automne suivant. Les visites, toujours rares et assez courtes que l'on me rendait, mes courses indispensables à Paris, nous volèrent tout au plus, en rassemblant toutes les heures, 2 semaines de notre délicieuse intimité. Oh, je vous laisse à penser si cette vie fut heureuse et si l'amour s'empara en maître absolu de notre amitié. Mais ce dernier sentiment fut aussi chaste sous les yeux de Dieu et de mon fils que l'avait été une amitié formée au lit de mort de mon frère Henri. On en jasa pourtant peut-être un peu chez les indigènes de Montmorency, mais la bonne réputation de notre hôtesse, sa discrétion sur nos sentiments qu'elle devinait bien, son ardeur à défendre notre conduite, la vie cachée que nous menions et le soin que nous eûmes de ne jamais nous montrer ensemble hors de la maison, enfin l'absence de tout scandale, empêchèrent la malveillance de s'en mêler. Aucun propos ne parvint jamais aux oreilles de mon mari, ni d'aucun de mes parents. Jamais amours ne furent plus délicieusement sentis et plus salutaires pour les deux âmes qu'elles remplirent. Les idées d'Henri, fort singulières aux yeux du monde, mais les seules vraies, les seules chrétiennes aux miens, transportèrent mon esprit dans une nouvelle sphère. Je conçus l'enthousiasme de la foi et de la vertu en même temps que celui de l'affection. Ces deux sentiments se liaient dans mon cœur et ne pouvaient plus se passer l'un de l'autre. Henri adorait mon fils que son père oubliait et délaissait et connaissait à peine. Aussi Édouard avait pour Lénore la tendresse, la confiance et le respect que son père eût dû lui inspirer. L'hiver nous arracha encore à notre paradis terrestre, mais cette fois il ne nous sépara point. Les morts viennent me voir en secret de temps en temps, et nous nous écrivions presque tous les jours. Il avait une clé du jardin de l'hôtel, et quand nous ne pouvions nous y rencontrer la nuit, une fente dans le piédestal d'une vieille statue recevait notre correspondance. C'est tout récemment, vous le savez, que M. de Blanchemont a perdu la vie d'une manière tragique et inattendue dans un duel à mort avec un de ses amis pour une folle maîtresse qu'il avait trahie. Un mois après, j'ai vu Henri, et c'est de ce moment que datent mes chagrins. Je croyais si naturel de m'engager à lui pour la vie. Je voulais le revoir un instant et fixer avec lui l'époque où les devoirs de ma position me permettraient de lui donner ma main et ma personne, comme il avait mon cœur et mon esprit. Mais le croiriez-vous, Rose ? Son premier mouvement a été un refus, plein d'effroi et de désespoir. La crainte d'être riche, oui, l'horreur de la richesse, l'ont emporté sur l'amour. Et il s'est comme enfui de moi avec épouvante. J'ai été offensé, consterné. Je n'ai pas su le convaincre. Je n'ai pas voulu le retenir. Et puis, j'ai réfléchi. J'ai trouvé qu'il avait raison, qu'il était conséquent avec lui-même, fidèle à ses principes. Je l'en ai estimé, j'en ai aimé davantage, et j'ai résolu d'arranger ma vie de manière à ne plus le blesser, de quitter le monde entièrement, de venir me cacher bien loin de Paris, au fond d'une campagne, afin de rompre toutes mes relations avec les puissants et les riches que les morts considèrent comme des ennemis, tantôt féroce, tantôt involontaire et aveugle de l'humanité. Mais à ce projet, qui n'était que secondaire dans ma pensée, j'en associais à un autre qui coupait le mal dans sa racine et détruisait à jamais tous les scrupules de mon amant, de mon époux futur. Je voulais imiter son exemple et dissiper ma fortune personnelle en l'appliquant à ce qu'au couvent nous appelions les bonnes œuvres, à ce que les morts appellent l'œuvre de rémunération, à ce qui est juste envers les hommes et agréable à Dieu dans toutes les religions et dans tous les temps. J'étais libre de faire ce sacrifice sans nuire à ce que les riches auraient appelé le bonheur futur de mon fils, puisque je le croyais encore destiné à un héritage considérable. Et d'ailleurs, dans mes idées à moi, en m'abstenant de jouir de ses revenus durant les longues années de sa minorité, en accumulant et en plaçant les rentes, j'aurais travaillé aussi à son bonheur. C'est-à-dire que, l'élevant dans des habitudes de sobriété, de simplicité, et lui communiquant l'enthousiasme de ma charité, je l'aurais mis à même un jour de consacrer à ces mêmes bonnes œuvres une fortune considérable, augmentée par mon économie et par le devoir que je m'imposais de n'en jouir en aucune façon pour mon propre compte, malgré les droits que la loi me donnait à cet égard. Il me semblait que cette âme si naïve et si tendre de mon enfant répondrait à mon enthousiasme, et que j'entasserais ses richesses terrestres pour son salut futur. Oh, riez-en un peu, si vous voulez, chère Rose, mais il me semble encore que je réussirais, dans des conditions plus restreintes, à faire envisager les choses à mon Édouard, sous ce point de vue. Il n'a plus à hériter de son père, et ce qui me reste lui sera désormais consacré dans le même but. Je ne me crois plus le droit de me dépouiller de ce peu d'aisance qui nous est laissé à toutes deux. Je me figure que rien ne m'appartient plus en propre puisque mon fils n'a plus rien de certain à attendre que de moi. Cette pauvreté dont j'aurais pu faire vœu pour moi seul, c'est un baptême nouveau que Dieu me permet, peut-être pas, d'imposer à mon enfant, avant qu'il soit en âge de l'accepter ou de le rejeter librement. Pouvons-nous, étant nés dans le siècle, ayant donné la vie à des êtres destinés aux jouissances et au pouvoir dans la société, les priver violemment et sans les consulter de ce que la société considère comme de si grands avantages et des droits si sacrés? Dans ce sauf qui peut général, où la corruption de l'argent a lancé tous les humains, si je venais à mourir en laissant mon fils dans la misère, avant le temps nécessaire pour lui enseigner l'amour du travail, à quel vice, à quelles abjections ne risquerais-je pas d'abandonner ses bons mais faibles instincts? On parle d'une religion de fraternité et de communauté où tous les hommes seraient heureux en s'aimant et deviendraient riches en se dépouillant. On dit que c'est un problème, que les plus grands saints du christianisme, comme les plus grands sages de l'Antiquité, ont été sur le point de résoudre. On dit encore que cette religion est prête à descendre dans le cœur des hommes, quoique tout semble dans la réalité conspirer contre elle, parce que du choc immense, épouvantable, de tous les intérêts égoïstes, doivent naître la nécessité de tout changer, la lassitude du mal, le besoin du vrai et l'amour du bien. Et tout cela, je le crois fermement, Rose. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, j'ignore quel jour Dieu a fixé pour l'accomplissement de ses desseins. Je ne comprends rien à la politique. Je n'y vois pas d'assez vive lueur de mon idéal. Et réfugié dans l'arche comme l'oiseau durant le déluge, j'attends, je prie, je souffre. Et j'espère, sans que m'occuper des railleries, que le monde prodigue à ceux qui ne veulent pas approuver ces injustices et se réjouir des malheurs de leur temps. Mais dans cette ignorance du lendemain, dans cette tempête déchaînée de toutes les forces humaines, les unes contre les autres, il faut bien que je serre mon fils dans mes bras et que je l'aide à surmonter le flot qui nous porte peut-être aux rives d'un monde meilleur dès ici-bas. Hélas, chère Rose, dans un temps où l'argent est tout, tout se vend et s'achète, l'art, la science, toutes les lumières et par conséquent toutes les vertus, la religion elle-même, sont interdites à celui qui ne peut payer l'avantage de boire à ses sources divines. De même qu'on paie les sacrements de l'exil, il faut à prix d'argent acquérir le droit d'être homme, de savoir lire, d'apprendre à penser, à connaître le bien du mal. Le pauvre est condamné, à moins d'être doué d'un génie exceptionnel, à végéter, privé de sagesse et d'instruction. Et le mendiant, le pauvre enfant, qui apprend pour tout métier l'art de tendre la main et d'élever une voix plaintive, dans quelles obscures et faibles notions est forcé de se débattre son intelligence infirme et impuissante. Il y a quelque chose d'affreux à penser que la superstition est la seule religion accessible aux paysans, et que tout son culte se réduit à des pratiques qu'il ne comprend pas, dont il ne saura jamais ni le sens ni l'origine, et que Dieu n'est pour lui qu'une idole favorable aux moissons et aux troupeaux de celui qui lui vote un cierge ou une image. En venant ce matin ici, j'ai rencontré une procession arrêtée autour d'une fontaine pour conjurer la sécheresse. J'ai demandé pourquoi on priait là plutôt qu'ailleurs. Une femme m'a répondu en me montrant une petite statue de plâtre cachée dans une niche et ornée de guirlandes comme les dieux du paganisme. C'est que cette bonne dame est la meilleure de toutes pour la pluie. Si mon fils est indigent, il faudra donc qu'il soit idolâtre au rebours des premiers chrétiens qui embrassaient la vraie religion avec la sainte pauvreté. Je sais bien que le pauvre a le droit de me demander Pourquoi ton fils, plutôt que le mien, connaîtrait-il Dieu et la vérité? Hélas, je n'ai rien à lui répondre. Si donc je ne puis sauver son fils qu'en sacrifiant le mien, et quelle réponse inhumaine pour lui? Oh, les temps de naufrage sont affreux. Chacun court à ce qui lui est le plus cher et abandonne les autres. Mais encore une fois, Rose, que pouvons-nous donc, nous autres pauvres femmes, qui ne savons que pleurer sur tout cela? Ainsi, les devoirs que nous impose la famille sont en contradiction avec ce que nous impose l'humanité. Mais nous pouvons encore quelque chose pour la famille, tandis que pour l'humanité, à moins d'être très riche, nous ne pouvons rien encore. Car dans ce temps-ci, où les grandes fortunes dévorent les petites si rapidement, la médiocrité, c'est la gêne et l'impuissance. Voilà pourquoi, continua Marcel en essuyant une larme, je vais être forcé de modifier les beaux rêves que j'avais faits en quittant Paris il y a 2 jours. Mais je veux faire encore mieux de mon mieux, Rose, pour ne pas m'entourer de petites jouissances inutiles aux dépens des autres. Je veux me réduire au nécessaire, acheter une maison de paysan, vivre aussi sobrement qu'il me sera possible, sans altérer ma santé, puisque je dois ma vie à Édouard. Mettre de l'ordre dans ce petit capital pour le lui donner un jour, après lui avoir indiqué l'usage que Dieu nous en aura révélé, utile et pieux dans ce temps-là. Et en attendant, consacrer la moindre partie possible de mon humble revenu à mes besoins et à la bonne éducation de mon fils, afin d'avoir toujours de quoi assister les pauvres qui viendront frapper à ma porte. C'est là, je crois, tout ce que je peux faire, s'il ne se forme pas bientôt une association vraiment sainte, une sorte d'église nouvelle, où quelques croyants inspirés appelleront à eux leurs frères pour les faire vivre en commun sous les lois d'une religion et d'une morale qui répondent aux nobles besoins de l'âme et aux lois de la véritable égalité. Ne me demandez pas quelles seraient précisément ces lois. Je n'ai pas mission de les formuler, puisque Dieu ne m'a pas donné le génie de les découvrir. Mais toute mon intelligence se borne à pouvoir les comprendre quand elles seront révélées. Et mes bons instincts me forcent à rejeter les systèmes qui se posent aujourd'hui un peu trop fièrement sous des noms divers. Je n'en vois encore aucun où la liberté morale se trouve respectée, où l'athéisme et l'ambition de dominer ne se montrent par quelque endroit. Vous avez entendu parler peut-être des saint-simoniens et des fourriéristes. Ce sont là des systèmes encore sans religion et sans amour, des philosophies avortées, à peine ébauchées, où l'esprit du mal semble se cacher sous les dehors de la philanthropie. Je ne les juge pas absolument, mais j'en suis repoussé comme par le pressentiment d'un nouveau piège tendu à la simplicité des hommes. Mais il se fait tard, ma bonne Rose, et vos beaux yeux qui brillent encore luttent pourtant contre la fatigue de m'écouter. Je n'ai rien à conclure pour vous de tout ceci, sinon que nous sommes toutes les deux aimées par des hommes pauvres, et que l'une de nous aspire à s'affranchir de l'alliance des riches, tandis que l'autre hésite et s'effraie de leur opinion. « Ah, madame, » dit Rose, qui avait écouté Marcel avec une religieuse attention, « que vous êtes grande et bonne, comme vous savez aimer, et comme je comprends bien maintenant pourquoi je vous aime. » Il me semble que votre histoire et l'explication de votre conduite m'ont fait grossir la tête de moitié. Quelle triste et mesquine vie nous menons au prix de celle que vous rêvez. Mon Dieu, je crois que je mourrai le jour où vous partirez d'ici. Sans vous, chère Rose, je serais fort pressé, je vous le confesse, d'aller bâtir ma chaumière auprès de celle de plus pauvres gens. Mais vous me ferez aimer votre ferme et même ce vieux château. Ah, j'entends votre mère qui vous appelle. Embrassez-moi encore et pardonnez-moi de vous avoir dit quelques paroles dures. Je me les reproche en voyant combien vous êtes sensible et affectueuse. Rose embrassa la jeune baronne avec effusion et la quitta. Cédant à une habitude d'enfant mutin, elle se donna le petit plaisir de laisser crier sa mère tout en se rendant avec lenteur à son appel. Puis elle se le reprocha et se mit à courir. Mais elle ne put se résoudre à lui parler avant d'être tout à fait auprès d'elle. Cette voix glapissante lui faisait l'effet d'un ton faux après la douce harmonie des paroles de Marcel. Encore fatiguée de son voyage, Madame de Blanchemont se glissa dans le lit où reposait son enfant et, tirant ses rideaux de toile d'orange à grand ramage, elle commençait à s'endormir sans songer au revenant indispensable du vieux château lorsqu'un bruit incompréhensible la força de prêter l'oreille et de se relever un peu émue.